paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices Torah Box Radio depuis Jérusalem, Yerushalayim. Bienvenue à notre émission La Torah vous parle. Nous espérons que vous vous portez bien et que nous allons pouvoir, à travers cette émission, traverser un moment important de découverte de notre texte que nous lisons chaque semaine dans le Sefer Torah, dans le rouleau de la loi, dans les synagogues, chaque Shabbat. Rav Ilan Fitoussi au micro. Et nous allons vous rappeler aussi que nous avons un mail qui est à votre disposition si vous souhaitez réagir. Vous pouvez nous écrire à radio@torah-box.com. Nous tâchons de lire chacun de vos messages. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Nitzavim. Cette année, elle sera jumelée avec Vayeler, mais nous allons essayer de dégager un thème qui est marqué dans cette paracha de Nitzavim, qui est en relation plus que directe avec l'événement, le calendrier actuel, le calendrier juif, puisque nous sommes en plein mois de Loul. Nous allons parler de la Teshuvah. Est-ce que la Teshuvah, c'est encore d'actualité, ou bien ce sont des principes que nos grands-parents avaient? Nous allons en parler dans quelques instants, mais juste avant ça, nous allons écouter une petite page de pub et nous nous retrouvons dans quelques instants. Alors à tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.
Paracha nous parle. Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission La Torah nous parle, au cours de laquelle nous allons parler, comme nous l'avons énoncé avant la page de publicité, évoquer cette notion de Teshuvah, puisque elle est marquée dans cette paracha de Nitzavim, paracha qui est toujours lue le dernier Shabbat de l'année, Shabbat donc qui précède Rosh Hashanah, qui puisait cette année, dans le Shabbat de l'année, puisque le Shabbat prochain, Mirsa Hashem, nous serons dans la fête de Rosh Hashanah, que nous Mirsa Hashem, nous reviendrons dessus la semaine prochaine. Et donc, La Torah, dans cette paracha de Nesavim, nous parle d'une chose qui ne se trouve ni dans le ciel, comme dit le texte, ni au-delà de la mer, mais dans notre bouche et dans notre cœur. Quelle est cette chose? Certains de nos maîtres pensent qu'il s'agit de la Teshuvah. D'autres pensent qu'il s'agit simplement de la Torah. Alors si la Torah le dit, comme tout verset, tout mot, toute lettre qui est marquée dans le Sefer Torah, c'est que c'est la vérité. D'un autre côté, on voit bien que dans la réalité, ce n'est pas si facile. Chaque juif, chaque juive, pense que s'il vivait auprès d'un grand sadique qui le dirigerait, cela irait mieux. Nous ne sommes donc pas responsables de nos manques spirituels, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement des mitzvot. Contre cette idée, la paracha de cette semaine, Nesavim nous dit « Lo bashamayim hi » « Elle n'est pas dans le ciel ». C'est-à-dire qu'il ne te manque pas un prophète comme Moshe Rabbeinu pour te rapporter la Torah du ciel. « Velomer aever layam » « Elle n'est pas au-delà des mers » pour que tu dises qu'il te manque un prophète comme Yona pour te la rapporter. « Mais elle est très proche de toi. Elle ne dépend que de ta bouche et de ton cœur. »« Kikarov elecha davar beom ificha u vilvavecha la soto » Si on fait l'effort requis, Akadosh Baruch Hu nous assure de nous prodiguer l'aide nécessaire pour s'élever dans la Torah et la Teshuvah. J'aimerais, pour comprendre cette idée, raconter cette histoire qui s'est passée il y a quelque temps. D'un juif. Ce juif avait à maintes reprises rêvé qu'il devait voyager jusqu'à Prague pour se rendre au palais du roi, devant lequel se trouve un pont. Au-dessus de ce pont se trouve un immense trésor. À force de voir se répéter ce rêve, ce bon juif entreprit le voyage. Dès son arrivée à Prague, il s'est dirigé vers ce pont proche du palais. En s'approchant, il se rendait compte d'un problème, que le palais et son pont étaient gardés en permanence par de nombreux soldats. Alors notre bonhomme était déçu. Après un si long voyage, tout près du but, il se voyait obligé de retourner chez lui les mains vides. Tout au long de cette journée, il n'a cessé de passer et repasser devant ce pont, plongé dans ses pensées concernant le trésor et le rêve, alors que c'était proche de lui. La nuit est arrivée, il a décidé de la passer à l'auberge. Le lendemain matin, il n'avait pas le cœur de retourner chez lui. À nouveau, il s'est rendu au pont et il y restait toute la journée. Cette scène a duré plusieurs jours. Le responsable de la garde du palais a remarqué que ce bonhomme, qui ne cessait de scruter assidûment le pont, a décidé d'éclaircir le mystère. Il a appelé notre bonhomme et lui a demandé « Dites-moi, monsieur, que cherchez-vous? Qu'attendez-vous ici depuis quelques jours ?» Un autre juif lui a raconté ses rêves concernant le trésor qui était enfoui sous le pont. En entendant ces paroles, le responsable de la garde s'esclaffa de rire et rétorqua « Pour de simples rêves sans valeur, tu as fait ce long voyage. Un homme comme toi ne devrait pas croire à de simples rêves. Moi aussi, j'ai rêvé qu'on me demandait de voyager à Cracovie où se trouvait un juif qui s'appelait le nom de notre bonhomme. » Car il y a chez lui, sous son four, un immense trésor. Est-ce que tu crois qu'à cause de ce rêve, je vais voyager à Cracovie? En entendant ces paroles, le cœur de notre bonhomme battit fortement. Il comprenait que sa venue à Prague était pour entendre de cet homme que le trésor ne se trouve pas à Prague, mais à Cracovie, dans sa propre maison. Alors, qu'a fait le bonhomme? Il a pris le chemin du retour et il est arrivé chez lui. Il a creusé sous le four et il a trouvé ce fabuleux trésor avec lequel il a fait construire une synagogue qui porte encore aujourd'hui son nom. Son nom, c'est Rav Eizik. Alors, conclusion de cette histoire, celui qui voyage pour aller voir un grand Rav doit savoir que le but de son voyage est d'entendre de ce que le Rav va lui dire que tout ce dont il a besoin se trouve en lui-même. Sa bouche et son cœur. Pourquoi si proche de nous? Et on répond que le monde a été créé par Hachem suivant la règle. que plus une chose est importante pour la santé du corps d'un homme, plus elle est facile à atteindre. Par exemple, l'air, qui est la chose la plus vitale, se trouve pratiquement partout et tout le temps. Ensuite, il y a l'eau, et ainsi de suite. La Torah nous enseigne qu'il en est de même pour la santé spirituelle d'un juif. La Teshuvah et la Torah sont tellement vitales que nous aurions dû aller au-delà des cieux et des mers pour les atteindre. Mais leur importance vitale comme l'air pour le corps ont fait que justement, elles ne sont pas là-bas. Et elles dépendent seulement de notre bouche et de notre cœur. Alors, améliorons notre Tefila, notre étude de la Torah, notre Teshuvah ainsi que le chesed, le bien que l'on peut faire à l'autre. Donne-nous la possibilité d'être jugé favorablement le jour de Rosh Hashanah, duquel va dépendre toute l'année qui va arriver. Et le texte le répète à deux reprises dans cette paracha de Nesavim. Tu le prendras à cœur. Parmi toutes les nations, tu retourneras alors jusqu'à ta lettre ton Dieu. Si tu le prends à cœur et tu constates qu'à chaque endroit où tu as été banni, Dieu se trouve avec toi et que la présence divine partage la douleur du peuple juif, alors tu seras peiné de l'exil, de la présence divine, davantage que de ton exil à toi. Alors tu retourneras vers Dieu, c'est-à-dire que tu feras teshuva à cause de l'Éternel ton Dieu, à cause de l'exil et de la souffrance de la présence divine. Le Rambam Maïmonide, il écrit que la teshuva complète, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu peut témoigner qu'un repenti ne reproduira plus sa faute. C'est ce que dit le texte. Tu retourneras. Tu retourneras à Hachem avec une décision si ferme et si authentique. Ad, jusqu'à l'éternel. Jusqu'à ce Akadosh Baruch Hu, Ad, dans le Sefer Torah, ce n'est pas ponctué, donc tu peux dire Ad. C'est que Akadosh Baruch Hu soit le témoin que tu ne commettras plus cette faute. Quelle est donc l'idée du Rambam ? Y a-t-il lieu de dire que si un quelqu'un qui fait teshuva, il revient vers Dieu, il commet à nouveau une faute, alors sa teshuva, son repentir, il ne sert à rien? En fait, vous savez très bien, ce principe que nous lisons des Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, que Avera goreret Avera, une faute entraîne une autre faute. Et que si un homme a transgressé deux fois, la faute lui paraît permise. Généralement, la deuxième faute, elle est le résultat de la première, parce que le Rambam explique que le vrai repentir est celui où la personne qui a décidé de revenir vers Dieu, il décide finalement de se couper totalement du passé, si bien que la première faute n'entraîne pas une deuxième. Et s'il commet une faute une deuxième fois, ce sera un nouveau début et non la suite de la première transgression. Mais si sa deuxième faute fait suite à la première, c'est le signe que son repentir n'est pas sincère. Et c'est ce que dira le texte un peu plus tard. Ve'ata tashuv, et tu te repentiras avec shama'ata ve'kol Hashem. Tu écouteras la voix d'Hashem. Le verset, il continue encore dans cette invitation pour chacun d'entre nous à écouter la voix d'Hashem. Tu retourneras jusqu'à l'éternel ton Dieu. Pourquoi, encore une fois, tu te repentiras? Pourquoi le texte le répète? Parce qu'avant qu'un homme se repente, il ne connaît pas encore la gravité de sa faute, car il était éloigné de Dieu. Il était plongé dans la fange du péché. C'est seulement après s'être repenti et rapproché de Dieu qu'il commence à comprendre le mal qu'il a causé par sa faute. Il ne se contente donc plus de son premier repentir, mais il se repent à nouveau et ainsi de suite. Plus il se repent et il se rapproche de Dieu, plus il comprend qu'il lui faut se repentir. Et c'est ce que nos sages veulent nous apprendre, à savoir que l'homme qui désire vivre devra consacrer un temps chaque jour afin que les paroles d'Akadosh Baruch Hu, les paroles de la Torah, les paroles des prophètes, les paroles des Ketuvim, les paroles des Rachamim à travers les générations, aussi bien dans la Mishnah que dans le Midrash, que dans la Gemara, que les derniers Sadikim, aussi bien ceux qui nous ont quittés que ceux qui, Baruch Hashem, sont encore en vie et qui sont notre protection à nous tous. Ces paroles-là, elles doivent pénétrer dans nos oreilles. Et on se doit chacun de garder, d'observer, de poursuivre ces voies en vue d'un repentir au quotidien. C'est avec raison que les Chachamim disent que l'essentiel de la Teshuvah passe par l'étude de la Torah. D'étudier des livres de Moussar, de morale, d'éthique, qui vont nous amener à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui s'approche des synagogues, des Baté Midrashot, des maisons d'études, pour étudier, écouter des cours, s'approche davantage tous les jours d'Hachem. Il s'approche de la Torah. Il s'approche de la Teshuvah. L'homme éloigné de la Torah l'est aussi d'Hachem. Il néglige les interdits, les considère comme permis, car dans son ignorance des lois de la Torah, le licite devient illicite et l'illicite devient licite. Et même s'il connaît l'interdit, il ignore sa gravité. Chachamim disent, à travers un des derniers versets de la paracha de Bereshit, « V'chol yesemar shevot libo rak ra kolayon » Le produit des pensées de son cœur était uniquement et constamment mauvais. En disant uniquement « rak », c'est réductif. Car le yesemar, le mauvais penchant, il réduit, il minimise la faute aux yeux de l'homme. Soit parce qu'il a déjà commis la faute et qu'en récidivant, elle devient familière et permise, soit que le sot, il pense avoir raison quoi qu'il fasse. Et lorsqu'on lui dit de faire teshuvah, il dit « Mais quelle faute ai-je commise pour me repentir ? Quel est le devoir de la teshuvah et comment on fait teshuvah ?» Ainsi, le sot, il marche dans l'obscurité et il va de mal en pis jusqu'à son départ de ce monde, vers la destruction. Qu'Akadosh Baruch Hu nous en protège. Par contre, comme dit Shlomo HaMelech, « Oler les chachamim yirkam » Aller vers les Chachamim, c'est devenir sage. Et celui qui étudie, celui qui écoute assidûment des cours connaît l'illicite et sa gravité. Car la plus légère faute est considérée comme une rébellion contre Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il sait récompenser les tzadikim, les justes, et il sait punir amèrement chaque faute, même la plus insignifiante. Hachem, il est droit. Il est strict sur la moindre erreur, il ne renonce à aucune rétribution. La punition est si grande qu'on dit que si l'homme subissait toute sa vie les souffrances de Hiob, de Job, cela n'est rien comparé aux souffrances de l'âme fautive le jour de sa mort. Et le jour de la mort n'est rien comparé aux graves et amères punitions du monde futur. Et comme le dit le Midrash, bien que la punition des mécréants dans l'enfer soit très dur, car ils descendent dans la vallée des pleurs, où ils boivent à la source des larmes, pourtant cela n'est rien comparé aux autres rigueurs et réincarnations. Par contre, la récompense d'un seul précepte est infinie. Lorsqu'un juif, il étudie, il écoute un cours de Torah, et il se rend compte que s'il croyait ne pas être une faute est en fait une grave transgression, il se repentit et il trouve la guérison. Il apprendra donc parfaitement tous les tlimizot et comment servir Hachem, car comme dit la Gemara dans Kiddushin, si le Yisera t'attaque, entraîne-le à la maison d'études. S'il est de pierre, il fondra. S'il est de fer, il explosera. La Torah est si puissante qu'elle sauve l'homme de la mort et le conduit vers la vie. Celui qui étudie quotidiennement les lois, qui écoute des cours, il est assuré d'une portion dans le Olam Haba, car la lumière de la Torah le ramènera vers le bien. C'est pour ça que les Chachamim ont fixé une bracha parmi les 19 qu'il y a dans la Amida et que je vous conseille, selon Chachamim évidemment, de se concentrer encore davantage durant cette période du mois d'Eloul jusqu'à Kippour. Achivenu avinu le Torahtecha. Kadosh Baruch Hu, notre Père, ramène-nous vers ta Torah. Vahazerenu v'tshuva shelema lefanecha. Et qu'on puisse faire acte de repentance totalement devant toi, car le repentir est impossible sans l'étude préalable de la Torah. Surtout, ne bougez pas. Dans un instant, nous reviendrons après une petite pause musicale pour nous détendre. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, nous envoyer des messages et vos remarques aussi à l'adresse internet radio@torah-box.com et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה.
והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
Rebonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez La Torah nous parle. Chaque semaine, nous nous proposons donc un éclairage sur la paracha. Donc, nous sommes toujours dans cette paracha de Nitzavim. Nous sommes en train de voir comment la Teshuvah peut jouer un rôle aujourd'hui et comment on peut comprendre cette mitzvah de faire Teshuvah. Je l'ai dit tout à l'heure, avant la pause publicitaire, que Nitzavim, cette paracha, est toujours lue le dernier Shabbat de l'année et donc par conséquent le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Parce que dès que Rosh Hashanah, le jour du jugement, approche, nous devons nous préparer à l'idée de passer un à un devant Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit juste avant notre pause musicale, l'étude de la Torah sera notre seul bouclier. L'étude de la Torah constitue la meilleure préparation et donc un impact exceptionnel. La Teshuvah, c'est la garantie de notre survie par rapport au Yom HaDin, au jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. C'est ce que dit le prophète Malachi. Shuvu elai ve'ashuva alechem amar Hashem. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, a dit Hashem. Si nous tournons nos regards et nos aspirations vers Hashem, alors il nous regardera avec bienveillance et nous bénira. Nous avons dit tout à l'heure, avant la pause, que cette teshuva, ou bien pour d'autres, cette l'étude de Torah n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce que la Torah veut dire lorsqu'elle n'est pas dans le ciel, elle est pas au-delà des mers, elle est très proche. Voilà un message, je pense, l'un des plus importants de la Torah. Rien ne peut faire obstacle à la teshuva, ni le lieu, ni le temps. Et chers amis, à cette dix derniers jours, avant de clôturer cette année 5780, évidemment, on ne peut pas passer sous silence que lorsque nous fêtions l'année dernière Rosh Hashanah, qui aurait pu imaginer ce que le monde entier, non pas un pays, non pas un continent, mais le monde entier, les 5 continents, subissent depuis des mois et des mois et des mois une instabilité à tous les niveaux, sanitaire, médical, démographique, économique, financier, politique. Et nous, grâce à Dieu, merci Hachem, Ishtabar Shemo, on ne doit pas être instable au niveau spirituel. Car justement, c'est ça, à mon avis, le message que cette paracha veut nous donner. La teshuva, c'est la mitzvah qui va nous sauver la vie. Ça n'est pas uniquement de la volonté de l'homme. Les chachamim, les sages, sont en discussion sur le fait de savoir comment on explique, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est... On parle de la Torah, qui n'est pas dans le ciel, ou bien c'est, comme dit le Rambam, la teshuva. Le Rambam, puisqu'on parle de cette autorité reconnue par tout le monde, rapporte dans son livre Mishneh Torah que l'homme, il doit peser à chaque instant ses actions. À Rosh Hashanah, comme à la fin de notre vie, on place les actes de chacun dans une balance. La balance penche soit du côté des Averot, soit du côté des Mizot. Rabbi Yochanan ben Zakkai tremblait ce jour-là malgré sa grandeur. Chaque Rosh Hashanah est un jour de jugement où l'homme, en fonction de ses mitzvot et de ses averot, il est placé du côté de la vie s'il est tzaddik et chas v'shalom du côté de la mort s'il est racha. Ou, en suspens entre les deux s'il est benoni, moyen, jusqu'à Yom Kippour. S'il fait teshuva, il méritera la vie. Benoni, c'est ce qu'on est tous. Car, c'est pas le soir de Rosh Hashanah où on plie bagage comme certains de nos frères qui ont une belle âme, qui le soir de Kippour rangent leur talit et les années prochaines. Le soir de Rosh Hashanah, on continue à faire des mitzvot, à faire les sélichot dans le monde séfarad, à faire plus de tzedaka. On continue encore à sonner le chauffard pour arriver jusqu'à le jour le plus important qui est Yom Kippour. Mais Benouni signifie à moitié méritant et à moitié coupable. Si c'est ainsi, au lieu de se demander pourquoi le Rambam fait-il dépendre la sauver de l'homme de la mitzvah du Teshuva et non pas de n'importe quelle autre mitzvah qui, a priori, pourrait suffire à elle seule à faire basculer la balance du bon côté. Et le Rambam répond que le calcul n'est pas fonction du nombre de mitzvot et des averot, mais de leur qualité. Il y a une mitzvah qui peut peser plus que des centaines de averot et des averot qui peuvent annuler un grand nombre de mitzvot. Le seul qui connaît la valeur des mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu, qui pèse chacune de nos actions en profondeur, en tenant compte de la qualité de son accomplissement, de la précision de l'exécution et de l'intention. Hachem, c'est le seul à savoir calculer les mitzvot et à pouvoir dresser le vrai bilan de l'homme. Mais en quoi la teshuvah est une mitzvah facile selon le Rambam? Pourquoi d'après le Rambam, elle seule peut nous faire mériter la vie le jour du jugement? La Gemara dans Menachot écrit « Gadol oncho shel lavan mi oncho shel techelet » que le châtiment est infligé pour le non-accomplissement de la mitzvah du fil blanc des tzitzit, c'est plus grave que celui qui est infligé pour le fil bleu d'azur. Rappelons entre parenthèses que les tzitzillot étaient réalisées de fil blanc et à l'époque entrelacées de fil bleu azur, et cette mitzvot était complètement indépendante. Une petite parabole pour bien comprendre cela. Un roi, une fois, a dit à deux de ses serviteurs de préparer des sceaux, pas des sceaux d'eau, des sceaux royaux. À l'un, il a commandé un sceau en or, et à l'autre, un sceau en terre glaise. Et bien entendu que si jamais les serviteurs n'accomplissent pas l'ordre du roi, la faute de celui à qui on a demandé le sceau en or sera moins grave que celui à qui on a commandé le sceau en argile. Pourquoi ? L'or étant plus cher et plus rare, c'est plus difficile à trouver. C'est pourquoi le roi sera plus miséricordieux avec son premier serviteur, alors que le second aurait pu se procurer facilement de la terre glaise. C'est la même chose pour la Torah, chers amis. Les choses qu'on peut faire facilement et qu'on ne fait pas sont réprimées plus sévèrement que les choses difficiles à accomplir. En l'espèce, le fil bleu du tzitzit venait d'un poisson qui apparaissait tous les 70 ans. Il était très rare et cher, alors que le fil blanc très courant était bon marché. Et le Gaon de Vilna, ce nom pourquoi cette Gemara utilise la parabole d'un sceau royal. Et les commentateurs de répondre que le sceau royal implique la soumission des serviteurs. Le tzitzit, c'est le symbole de notre condition de serviteur du roi des rois de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Celui qui comprend ce commentaire et il ne se part pas du tzitzit katan, alors malheureusement, il n'a pas compris le message. Cette mitzvah, en fait, elle génère des milliers d'autres. Chaque pas fait avec ce vêtement, chaque seconde qui s'écoule compte comme une bonne nouvelle action. Et donc faire teshuva, c'est porter un bouclier plus efficace encore que l'armure des soldats. On comprend donc que plus l'avéra est facile à éviter, plus la sanction, si on l'a commis malgré tout, est lourde. Hachem, lui seul, peut savoir si l'avéra est difficile à éviter pour l'homme. Qui peut savoir ce qui est arrivé à quelqu'un qui ne peut pas se lever au slichot, ou bien le matin à tirer le shacharit? Seul Akadosh Baruch Hu sonde les reins et le cœur de ses enfants. Et donc là, on comprend l'opinion du Rambam. Et c'est ce qu'il dit encore dans ce fameux Perkei Avot, que dans la communauté chassidique, on lit jusqu'à Rosh Hashanah, où c'est Ben Hehe qui dit les Foum Saharagra, que le salaire, il est en fonction de la peine qu'on s'est donnée. Et le Rav Esraim de dire, nous peinons et les non-juifs peinent. On reçoit un salaire, mais eux ne reçoivent pas. C'est un morceau d'une tefila que l'on fait lorsqu'on assiste à un siyum maseret, à une conclusion d'un traité du Talmud. Les gens qui s'investissent pour la Torah, ils vont peiner et ils vont recevoir un salaire. Ceux qui s'investissent dans la futilité, alors ils vont peiner, mais ils ne vont rien recevoir. Même si on n'a pas bien compris ce qu'on a étudié, qu'on n'a pas réussi à accomplir une mitzvah comme il le fallait, si on s'est efforcé de bien faire de tout notre cœur, avec toute notre volonté, on reçoit le même salaire que si on avait réussi. Voilà pourquoi expliquent nos sages. Il est impossible de juger son prochain car Hachem a voilé l'effort fourni par chacun et c'est celui-ci qui est digne de louange. Et donc le Rambam, il dit que la seule étude qui reste indélébile en l'homme est celle qu'on fait dans la difficulté et le don de soi. Elle reste gravée en nous, à tout jamais, à l'inverse de celle qu'on fait sans se fatiguer, qui s'oublie et qui a une valeur moindre aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est le calcul du ciel. Pour les Averot et pour les Mitzvot, plus la difficulté est grande, plus le salaire perçu est considérable. Voilà pourquoi on doit nous consoler. Malgré les grandes épreuves, et j'en ai parlé tout à l'heure, cette année 5680 a été remplie d'épreuves. Mais nous devons nous dire que notre délivrance est entre nos mains. Et elle dépend de notre teshuva, de notre fidélité à Kadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, les questions qui se posent, c'est qui aura le droit à la vie ? Quels seront nos moyens de parnassa, de subsistance? Quel sera notre état de santé? Comment aborderons-nous les événements de l'année? Serons-nous à la hauteur des épreuves? Et encore d'autres questions. Hachem, il est prêt à tout oublier et à nous juger à ce moment précis si nous parvenons à faire teshuva. Nous l'avons dit tout à l'heure, à deux reprises, cette parasha de Nesavim, elle nous invite à faire teshuva. Donc il faut abandonner nos mauvais chemins et revenir jusqu'à Hachem. Nous l'avons dit, nous le connaissons, ce principe. Puis même si nous sommes arrivés à la fin du mois d'Eloul, rien n'est perdu. Pourquoi? Parce que nous avons un principe qui s'appelle « Akol lefi khatima ». Tout dépend de notre, de la signature, de la fin. Nous sommes au mois d'Eloul, Anil et Dodi et Dodili. Je suis pour mon bien-aimé est pour moi. C'est-à-dire que si nous parvenons à nous donner entièrement à Hachem, il s'engage à nous rapprocher entièrement de lui, en nous pardonnant toutes nos fautes. Rabbi Shimon bar Yochai, avant de quitter ce monde, il a dit, Anili Dodi, Ve'alai Teshukato. Je suis pour mon bien-aimé et ses yeux sont rivés sur moi. Comment pouvait-il être sûr d'une telle chose? On répond qu'il avait scellé une alliance éternelle avec la Torah d'Hachem. Et par conséquent, il savait qu'Hachem l'aimait plus que tout au monde. Donc, on doit prendre sur nous tous cette alliance de la Torah afin de mériter d'être attaché à Kadosh Baruch Hu et de pouvoir faire une teshuvah qui soit totale. Si, dans cette paracha, nous disons Re'e natati lefanecha et ayom et ha'ay et tov et mab et ra. Regarde, j'ai passé aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors que dans la parasha de Re'e que nous lisons toujours le Shabbat qui précède qui tombe Rosh Chodesh Elul, donc il y a un mois, c'est marqué là-bas Re'e anochi noten lefanecha ayom berachok. Là, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Ne pas se repentir constitue une faute plus grave que la faute elle-même, dira le char et teshuva, Rabbi Nouyona. Pour ça que, à Kadosh Baruch Hu, sa grande miséricorde, il nous donne le choix, mais il nous donne quand même la possibilité d'écouter ce conseil qui dit, dans le verset d'après, « Uvacharta bachayin ma'an tirye » Tu choisiras la vie afin que tu vives. Il existe des personnes qui vivent pour manger, et d'autres qui mangent pour vivre. Leur vie n'ayant d'autre but que de satisfaire leurs besoins physiques. La Torah nous recommande, tu choisiras la vie afin que tu vives. Choisissons la vie. Choisissons de mener une existence spirituelle au but élevé et qui a du goût, le goût du miel, le goût du bien. C'est le goût de la Torah. Choisissez aussi d'écouter quelques publicités. Et on se revient dans quelques instants pour notre dernière partie de notre émission. A tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte de la vraie Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishmant, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Paracha nous parle. Écoutez ce que la Paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Je vous redonne le mail si vous souhaitez nous envoyer des remarques, poser des questions. radio@torah.com. Et donc nous allons parce que malheureusement il faut toujours conclure un cours ou une émission sur cette paracha de Nissavim, paracha de cette semaine, où nous sommes arrêtés sur cette notion de Teshuvah. Qu'est-ce que faire Teshuvah? Beaucoup de gens se font des illusions. Ils vivent dans l'imaginaire. Ils prononcent quelques Tehillim, disent des Selichot, font le jeûne de la parole et font taire leur conscience. Ce n'est pas ça faire Teshuvah, ça c'est une illusion. Le vidouille, confesser entre guillemets, pour trouver une traduction proche en français, est cependant une partie de la Teshuvah comme le dit le Rambam. Mais la Teshuvah ne se termine pas en disant « j'ai péché, j'ai fauté, j'ai commis un crime ». Car, quelle en est l'utilité? Hachem sait bien que tu as péché. Un des fondements de la Teshuvah, c'est de réparer les altérations, que l'homme améliore ses actes. Et s'il agit ainsi, même le vidouille aura une utilité. Le meilleur conseil qu'on peut donner afin de réussir dans le chemin de la Teshuvah, c'est de consacrer 10 minutes par jour, ou au moins une fois par semaine, afin d'établir un bilan personnel. Et l'homme méditera ainsi sur ses actes. Comment me suis-je comporté aujourd'hui? Combien de fautes ai-je fait de la médisance? Combien de paroles inutiles ai-je dites aujourd'hui? Combien de bénédictions ai-je prononcées sans intention? Il est nécessaire de faire un bilan personnel de nos actes tous les jours. Un homme s'habituera à méditer sur chaque moment de sa vie. Une femme qui prépare un gâteau, elle lui consacre beaucoup de temps, peut-être une heure. Elle est au courant que s'il manque un seul ingrédient, tout le travail, les ingrédients qu'elle a investis seront perdus. Si pour un gâteau, cela vaut la peine d'investir une heure entière, ne vaut-il pas le coup pour nous d'investir 10 minutes par jour afin de préparer notre gâteau du Gan Eden, un gâteau éternel? Car si nous oublions les détails, ce gâteau sortira à Dieu ne plaise. Et c'est vrai, on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous avons des appareils électroménagers qui, on appuie sur un bouton, ils nous donnent tout ce qu'il faut mettre pour faire une salade, un plat, un gâteau, donc on n'a pas trop besoin de se casser la tête. Mais nous, on a besoin de faire comme faisaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, de se fatiguer, de se peiner. Car c'est le monde de l'action, c'est ce monde-ci. C'est le monde de la Teshuvah. C'est le monde où on doit agir, et agir pour le bien. Pour le bien de notre bien, le bien de l'autre, le bien d'Akadosh Baruch Hu, et donc le bien pour le monde entier. Il vaut beaucoup mieux, dans ce cas, consacrer quelques minutes avant de dormir à une courte méditation de ce qui s'est passé dans la journée, entre nous et Hachem, entre nous et notre prochain. Je me suis mis en colère gratuitement. Et toutes les questions qu'on pourrait se poser dans le positif et dans le négatif, c'est une vertu vérifiée et approuvée. Si un homme s'assoit 10 minutes avant de dormir et qu'il réfléchit à ce qui est arrivé dans la journée, quel bonheur, quelle sérénité il amène sur lui. En croyant faire Teshuvah, Un homme risque de faire des erreurs et de s'en tenir à l'écart. La chose peut venir d'une erreur ou également de paresse. Parfois, nous sommes miséricordieux à notre égard. On ne fait pas l'analyse appropriée à notre neshama, ni le traitement approprié. Depuis que la science est développée, un médecin ne donne pas un médicament par hasard. S'il pense qu'il s'agit d'une infection dans la gorge, il fait d'abord un prélèvement local pour diagnostiquer le microbe. Et selon le résultat de l'analyse, il prescrira l'antibiotique le plus adapté. Et s'il faut se comporter avec une telle prudence pour une douleur de gorge, alors il faut envoyer le prélèvement dans un laboratoire, vérifier au microscope afin d'établir le traitement le plus adapté. Ô combien, à forcerie, il faut être prudent avec les microbes de l'orgueil, de la médisance, de la débauche et d'autres du même genre. Nous devons assurément prendre chaque mauvais trait de caractère, l'examiner au microscope, déceler le microbe et le combattre avec un antibiotique adapté. Le chemin de la teshuva qui lui conviendra. C'est aussi une erreur répandue que de croire que de faire teshuva c'est une chose insignifiante. Les gens pensent naïvement, nous avons effectivement fauté, nous ferons teshuva et Hachem nous pardonnera. C'est une grande erreur. Il y a eu des époques où le peuple d'Israël ne croyait tout simplement pas qu'une telle situation était possible. Qu'Akadosh Baruch Hu pardonne et que la faute soit effacée, au point d'avoir du mal à croire à l'existence de la possibilité de faire teshuva. En effet, il n'y a aucune explication logique à la force de la teshuva. Est-ce possible? Peut-on imaginer qu'un homme coupe la tête de son ami et lui demande ensuite pardon? Est-ce qu'un tel pardon sera utile? Mais il l'a déjà tué. À quoi serviront ses excuses? Ça peut être tué physiquement, peut être aussi tué psychologiquement, en faisant honte à quelqu'un. Et si un tel lui crache au visage en public, même s'il lui donne 1000 fois pardon, la trace reste dans le cœur. Même s'il déclare clairement « j'ai pardonné », il n'est pas sincère au fond de lui-même. Il aurait préféré que celui qui l'a humilié déménage dans une autre ville afin de ne plus jamais le voir. C'est difficile de pardonner, très difficile. Parfois, l'homme ment disant « j'ai pardonné » car il a encore de la rancune. Il ne pardonne pas en réalité. Il voulait simplement qu'on le laisse tranquille et ne pas être obligé de revoir ce visage. Il l'a renvoyé avec le message « j'ai pardonné ». Et combien de péchés avons-nous commis? Combien de mitzvot avons-nous transgressé à la face d'Hachem? Nous avons tellement humilié Hachem. Nous avons profané son nom. Nous lui avons fait tant de mal. Nous ne voulons pas à la suite lui présenter des excuses. Lui demander qu'il pardonne. Pourquoi nous pardonnerait-il? En fait, il est très difficile de pardonner. Par conséquent, nous ne devons pas penser avec légèreté que faire teshuva, c'est un sujet facile. Il n'est pas du tout évident qu'Hachem nous pardonnera. La teshuva n'est pas du tout une chose simple. Ce n'est pas une évidence qu'Hachem nous pardonnera. Et évidemment, nous ne réussirons pas à atteindre l'objectif en appuyant simplement sur un bouton avec un peu d'émotion. Le manque de réflexion est une des premières choses qui empêche la teshuva et le pardon. Certains prétendent que s'ils se rendent au kotel pour prier les sirot tard dans la nuit, cela est suffisant. Ils disent quelques versets par-ci par-là. Ils discutent avec des connaissances rencontrées sur place. C'était très émouvant et ils ont la conscience tranquille. Tout cela n'a aucun lien avec la teshuva. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils sont tout simplement embrouillés. Et je ne le dis pas, Chavé Shalom, avec ses vérités. Et parce que Hachem nous aime. Il nous a mis des Sadikim. Sadikim nous aime et ils nous ont transmis. Et moi j'essaye, à mon petit niveau, par amour pour tous les Juifs, même si je ne vous connais pas, de pouvoir vous transmettre cet amour pour dire que des fois, malheureusement, on pense que c'est quelque chose de très important. Or, on passe à côté de l'essentiel. C'est pas le Kotel, même si l'endroit le plus saint du monde. C'est pas les stichot, même s'il faut le faire. C'est pas Yom Kippour, le jour le plus important du calendrier. C'est pas les plats spéciaux, même si on a besoin d'avoir une belle table pour honorer nos Shabbatot et nos jours de fête, entre autres. Mais ils ne pensent pas à la vraie teshuva. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris. Pour terminer, chers amis, et nous donner un peu plus de de courage et de force. Il y a quelques semaines, nous avons lu une paracha. Ça s'appelait Kitetsé. Là-bas, c'est marqué Uvacheta et Avia et Ima Yirachamim. Elle a pleuré son père et sa mère pendant un mois entier. Et le soir, comment qu'il s'agit du mois des Louls. Elle, c'est la belle prisonnière. Quel lien il y a entre cette belle prisonnière de cette paracha de Kitetsé et le mois des Louls? La Gemara rapporte une divergence de vue à ce sujet entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Afin de déterminer si l'expression son père et sa mère fait littéralement référence aux parents de la belle prisonnière ou s'il s'agit plutôt d'une allusion aux pratiques idolâtres. Alors, les maîtres du Moussard nous rapportent que ce sont en effet les traits de caractère d'une personne qui sont à l'origine de ses opinions et de son idéologie. Comme par exemple une personne qui soutient que dans la vie il ne faut pas faire trop d'efforts, c'est souvent qu'un tempérament paresseux se cache derrière ce genre de thèse. De même, une personne qui est par principe très autoritaire envers sa famille et ses amis n'est sans doute qu'un homme animé au fond de lui d'une grande cruauté. Réciproquement, l'environnement influe sur les traits de caractère. Par exemple, deux enfants dotés à la naissance d'un tempérament coléreux deviendront cependant très différents si l'un est élevé dans une atmosphère calme et sereine, pendant que l'autre a grandi dans un environnement familial nerveux ou violent. Et ce principe nous permettra de résoudre l'énigme de ce qu'a dit le Zohar. Cet homme qui, au cours d'une guerre, s'était pris de la belle prisonnière et désire par faiblesse la faire entrer dans sa maison, devra entreprendre un processus qui rendra cette femme apte à intégrer un foyer juif. Ce processus doit être sérieux et approfondi. Il ne s'agit pas d'une conversion formelle, superficielle, mais plutôt d'un travail de fond, consistant à remanier la personnalité de cette femme en corrigeant ses traits de caractère. Il s'agit d'un processus long, douloureux, qui débute par un renoncement à son passé, aux valeurs et aux modes de vie inculqués par son père et sa mère, et surtout à l'idolâtrie qu'elle pratiquait. En affirmant ainsi clairement son engagement à de nouvelles valeurs, cette femme enclenchera un processus visant la transformation de son être. Et c'est ce que dit le Zohar. En associant ce thème de la belle prisonnière avec le mois des Louls, vient nous enseigner un principe fondamental relatif à la Teshuvah. Lorsqu'un juif décide en Elul, dans le mieux, meilleur des cas au début, mais on est toujours dans le bien si on le fait maintenant à la fin du mois d'Elul. Ce juif décide d'amorcer un changement d'attitude et de faire Teshuvah sur ses actes coupables. Il doit prendre conscience que la première étape de son cheminement, c'est le changement radical de son système de valeurs. Si jusqu'à présent, son cœur se laissait séduire par les plaisirs de ce monde et entraîné par toutes sortes de tentations, le faisant perdre de vue le rôle qu'il doit jouer dans la vie. Il devra alors amorcer un changement brutal de sa position et de se dégager complètement de ses tendances matérialistes. De manière que la belle prisonnière doit pleurer son passé. Comme on pleure un mort qui ne reviendra pas, ainsi le Baal Teshuvah devra renoncer à tous les objets de sa convoitise. Cette décision, elle influera sur son caractère, qui se modifiera progressivement au point de le transformer, de lui faire mériter un jugement favorable. Et donc Elul, c'est le mois où la prisonnière pleure son père et sa mère, comme l'affirme Rabbi Eliezer, et plus encore le mois où on abandonne toute forme d'idolâtrie, conformément à l'opinion de Rabbi Akiva. Et je pense, pour conclure et donner mes derniers mots de cette émission pour cette semaine, que véritablement, on doit prendre conscience que, évidemment, ce Rosh Hashanah Yom Kippour sera nettement différent. Mais j'aimerais vous dire qu'en vérité, tous les ans, Corona ou pas Corona, chaque année, Rosh Hashanah Yom Kippour doit être différent. Parce qu'on doit opérer en nous un changement, donc ce n'est pas le même. Mais qui plus est, quelques jours où nous a envoyé cette épidémie, ce n'est pas uniquement pour pleurer nos morts, pour prier pour nos malades, mais c'est aussi pour nous, qui, Baruch HaShem, grâce à Dieu, nous sommes vivants, en bonne santé. D'abandonner toutes ces habitudes qui ne répondent pas aux critères, à l'état d'esprit de la Torah. Et de faire en sorte que lorsqu'on rentre dans une synagogue, ce n'est pas pour parler, c'est pour prier. Si on vient en semaine, eh ben, on met comme dans un avion. On met son téléphone en mode silence ou en mode avion. On fait en sorte que toutes les misodes que Kachouk nous a données, ce n'est pas pour les faire avec un certain automatisme, mais de mettre une certaine conviction. Je dirais même une simcha. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, la simcha, c'est pas danser sur un pied ou rire jusqu'aux oreilles. La simcha, c'est la notion de emuna. Et je fais une misa parce que Kadosh Baruch Hu me l'a demandé. Ce que Kadosh Baruch Hu me dit de faire, c'est pour mon bien. Donc je suis content de pouvoir faire telle ou telle misa. Je suis heureux de pouvoir la réaliser et de remercier Kadosh Baruch Hu de pouvoir me donner autant de misot afin de pouvoir les faire. Et c'est ça que, à Tani Savimayom, nous sommes aujourd'hui debout. Nous sommes debout, nous sommes bien là. Quand même, à Kadosh Baruch Hu, pour des raisons qui nous appartiennent, comme dit la paracha, Hanistarot, l'Hachem, des choses qui sont cachées et qui appartiennent à l'Hachem. Kadosh Baruch Hu avait décidé, Rosh Hashanah de l'année dernière, de nous envoyer une épidémie. Nous devons faire avec cette épidémie, mais nous devons aussi faire en sorte que notre vie diffère. Pas uniquement en portant des masques, pas uniquement en étant à une distance de 2 mètres de l'autre, pas en se lavant les mains assez régulièrement dans la journée, qui sont des mesures que nous devons respecter, parce que c'est la loi de chaque pays, mais c'est aussi des recommandations que la Torah nous demande. Le masque, c'est pour arrêter de parler. Distance, c'est pour éviter une proximité trop exiguë, surtout entre hommes et femmes. Le fait de se laver les mains, c'est pour savoir que lorsque je fais une misa, bah, vaut mieux se laver les mains que de le faire alors que je me suis gratté la tête, ou bien j'ai enlevé la sueur qui coulait sur mon visage, ou bien j'ai lacé mes chaussures. Mais c'est aussi la possibilité de vivre dans une autre dimension. Cette vie que j'aspire de tous mes voeux, que cette dernière semaine qui s'annonce, une semaine où il faut se renforcer, oui, on doit faire en sorte de multiplier nos misot et maasim tovim afin de pouvoir rentrer dans la nouvelle année qui, j'espère, sera meilleure. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. À bientôt.